On entend de plus en plus parler d'innovation sociale, puis ce qu'on trouve intéressant, justement, c'est d'aller discuter avec les gens qui peut-être disent qu'ils en font ou qui disent qu'ils font de la transformation sociale, mais d'aller voir avec eux, bien, c'est quoi votre... T'sais, c'est quoi la perception de ce que c'est l'innovation sociale, puis surtout essayer de définir, avoir une définition citoyenne de ce qu'est l'innovation sociale.
Ben moi, ça nomme l'audace. L'audace d'essayer de faire autrement. L'audace de changer des façons de faire qui sont là depuis peut-être trop longtemps. Donc, puis c'est aussi avoir l'audace de mettre en application nos idéaux. Donc, il y a une notion d'action, mais il y a une notion aussi de confronter, on va dire, l'ordre établi ou les choses qui sont déjà comme bien ancrées.
Ce que nous raconte Mélissa est très représentatif des discussions que nous avons eues à travers le Québec. Pour plusieurs personnes, l'innovation sociale possède ce caractère audacieux, le fait d'à la fois entreprendre de nouvelles choses et de confronter le statu quo. On pourrait dire que l'audace caractérise aussi les initiatives que nous avons rencontrées. Derrière chaque projet que nous avons visité, se trouvent des citoyens et citoyennes qui s'engagent pour rendre leur monde meilleur. Avec l'équipe de Perspectives et Dialogues, ce sont avec ces personnes que nous avons eu le plaisir d'échanger. Qui sont ces gens qui s'investissent souvent bénévolement dans leur communauté? Au-delà de cette audace et de cet espoir, qu'est-ce qui les pousse à s'engager ainsi? Ce sont leurs voix, leurs impressions, leurs analyses que vous entendrez majoritairement dans cette série de balados. Pour tout vous dire, une des choses qui nous a marqué, c'est surtout la grande diversité des parcours de vie de ces personnes et les différentes raisons qui les ont amenés à s'engager. Parmi ces citoyens et citoyennes, certains et certaines s'impliquent depuis plus de 40 ans, d'autres flirtent encore avec l'idée de s'engager, ou encore en sont leur première expérience d'engagement, comme étudiants et étudiantes au collégial ou comme jeunes retraités. Certaines personnes ont vécu des moments d'épuisement, d'anxiété, des sentiments d'impuissance face à l'inaction des pouvoirs publics. Ces mêmes personnes nous ont aussi partagé leur joie, leur sentiment d'accomplissement, leur fierté qui découle de leur implication. Aussi, les rencontres qu'elles ont faites et les grandes réussites auxquelles elles ont participé. Les chemins menant à l'engagement citoyen sont donc variés. Ils sont à la fois sinueux et drainants, mais aussi source d'apprentissage et de gratitude. Dans cet épisode, nous nous intéressons à qui porte l'innovation sociale. On va explorer les ressorts de l'implication citoyenne, discuter avec ces personnes qui portent à bras-le-corps des projets d'innovation sociale. Bienvenue à Perspectives et Dialogues en innovation sociale.
Épisode 2. L'engagement citoyen comme point de départ.
Quand est-ce que vous êtes tombé dans la marmite de l'implication citoyenne? Une question qu'on ne se pose pas tous les jours, mais qui souvent en dit beaucoup sur nous. Pour Sophie, oui, il y a l'éducation et l'information qui jouent un rôle, mais l'engagement citoyen est surtout quelque chose de viscéral.
On n'amène pas les autres à être engagés comme ça, là. Il n'y en a pas de baguette magique. Il faut que la personne ressente et un intérêt vis-à-vis d'une cause. Puis ben, ça, c'est l'information, là. Mais sans, c'est ça, être la personne qui va être en train de sermonner chacun individuellement. Mais anyway, ce que je veux dire surtout, c'est que l'engagement citoyen, ça vient d'un intérêt personnel, viscéral. C'est quelque chose qu'il faut que ça sorte des tripes, là. Tu peux pas inventer ça. C'est pas artificiel, l'engagement. Et puis que, ben c'est ça, ça va avec l'information. Donc, quelle que soit la cause, si les personnes ne sont pas informées du potentiel de changement, du poids qu'elles peuvent avoir sur la transformation d'une cause. Donc, tout à l'heure, on parlait de GNL Québec. Là, c'est sûr que ça arrive à un moment T dans ta région à toi. Donc, il faut que tu sois informé pour pouvoir avoir un point de vue déjà. Là, il faut que tu sois informé de tout. Mais ça peut être aussi le cas, c'est comme on est à la veille d'une élection provinciale. Ben, c'est sûr qu'il faut qu'on puisse parler des enjeux. On a un pouvoir en tant qu'électeur individuellement. Puis, peut-être collectivement à l'échelle d'une région, donc ça fait partie. Il y a des momentum là, il y a des moments aussi reliés à des causes, et c'est ça qui peut, je crois, amener un engagement.
Il y a donc quelque chose d'à la fois très circonstanciel et personnel à l'engagement. Ce sont nos rencontres, notre personnalité, notre éducation, le hasard, nos valeurs, tout ce qui caractérise notre trajectoire de vie. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces multiples expériences d'engagement qui habitent le Québec? Au mois de juin 2022, l'équipe de Perspectives et Dialogues mettait les pieds à Sherbrooke pour rencontrer un groupe de citoyens et citoyennes engagés dans une variété d'initiatives de la région. On s'est rassemblés un mardi soir, au Café Baobab. Avant de parler des personnes présentes, laissez-moi vous mettre un peu en contexte. Le café se trouve dans un petit centre d'achat du district d'Ascot, au sud de Sherbrooke. De l'extérieur, le café n'a rien de bien différent des autres cafés-restos du coin. Mais c'est une fois à l'intérieur, et lorsqu'on nous raconte l'histoire de ce lieu, que tout prend son sens. Le café est en fait l'initiative de l'accorderie du quartier. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, au Québec, les accorderies sont des réseaux d'échange de services non monétaires. Par exemple, je donne une heure de mon temps à enseigner la guitare pour un jour recevoir une heure d'aide en mathématiques. Et donc, l'accorderie de Sherbrooke cherchait un lieu pour favoriser les rencontres entre ses membres qui échangent des services, d'où la création du Baobab. Catherine, qui dirige à la fois le café et l'accorderie, nous raconte que rapidement le café devient un lieu de partage de savoirs et d'événements culturels. Il y a des ateliers de chant, des cafés de réparation, des spectacles, de la médiation culturelle qui s'organise. Sa programmation est si importante que la ville de Sherbrooke reconnaît la part du café communautaire en lui attribuant le rôle de centre culturel du quartier. C'est aussi une centaine de citoyens et citoyennes qui ont bénévolement rénové ce lieu pour en faire un endroit convivial. Cette histoire est importante car ça démontre comment ce lieu devient un point de rencontre pour une diversité de personnes. Et c'est ce qui a caractérisé nos échanges à Sherbrooke. On s'est retrouvé avec une grande diversité de parcours où les participants et participantes venaient d'horizons différents. Nous avons discuté des sources de motivation pour s'engager, mais aussi de l'épuisement vécu par plusieurs. Ces éléments font d'ailleurs écho à d'autres témoignages recueillis lors des autres ateliers. Mais c'est à Sherbrooke, particulièrement, que cette prise de parole semble être libératrice. Ils et elles ont pu s'exprimer sur des éléments peu abordés habituellement et partager leur expérience. On a tous et toutes un exemple de cette personne qui nous inspire. Que ce soit une amie qui s'implique depuis toujours ou encore d'une leader communautaire qui semble être sur tous les fronts depuis des décennies. Au Café Baobab, toutes sortes d'histoires nous ont été racontées. Pour certaines personnes, c'était même le nid familial qu'il y avait une culture de l'engagement social. Pour d'autres, la découverte du militantisme s'est faite à l'école par le biais de cours ou d'implications étudiantes. Ou encore, c'est le fait d'être malade, de faire face à la maladie d'un proche, de vivre ou d'être témoin d'une situation d'exclusion, d'être spectateur, spectatrice d'aberrations telles que la destruction d'un territoire, d'un bâtiment. Mais s'il y a un point commun qui réunit ces parcours, c'est ce mélange d'indignation et d'espoir qui nourrit l'engagement social. Marie-Hélène de Québec résume bien cette idée. Elle nous parle de ce qui l'a poussée à s'impliquer à la Table citoyenne Littorale S, une organisation qui s'est opposée, entre autres, au projet Laurentia, un projet d'agrandissement du port de Québec.
De mon côté, je pense que d'un bord, il y a l'indignation de voir dans le quartier comment le quartier est la proie des promoteurs et la proie d'industrie et la proie de gens qui veulent investir dans le quartier. Tu sais, je crois beaucoup que les quartiers devraient appartenir à ceux qui y demeurent, qui y vivent, qui l'utilisent, qui le fréquentent, mais pas sur la base de leur portefeuille, pas sur la base de leur propriété ou non-propriété, pas sur la base de « ils sont des gens performants, ils sont des gens… » Alors, mais les gens qui sont quotidiennement puis qui l'occupent. Fait que, et ça me tient beaucoup puis ça me met beaucoup en maudit de voir aussi que des gens qui se sont tapés pendant des décennies de mauvaise qualité de l'air, ben là on va les tasser parce que tout à coup on trouve que c'est un territoire à valoriser, à exploiter, à donc ça je trouve ça c'est le côté qui me choque et qui me des fois me tient réveillé la nuit. Puis le côté que je trouve qui est motivant beaucoup, c'est les rencontres. Donc, quand on va présenter la table, puis que ça allume des choses pour les gens, puis que les gens ont entendu parler de Laurentia, de la lutte Laurentia, ont entendu parler de telle autre affaire, c'est aussi beaucoup des fois des jeunes qui disent « Ah, ben on peut-tu donner un coup de main, comment, etc. » Ça, c'est trippant. Tu sais, je trouve ça nourrit beaucoup, beaucoup l'implication.
Dans ce que nous raconte Marie-Hélène, il y a quelque chose de très incarné. Lorsqu'elle voit comment son quartier évolue, et surtout pour qui il se transforme, de voir tous ces projets de développement qui arrivent si rapidement. Pour Marcel, c'est aussi la relation au territoire qui caractérise cet engagement. Et particulièrement, c'est ce qui a disparu qui le préoccupe.
J'ai vu, moi, des pertes écologiques très importantes dans des milieux où j'allais et ça n'existe plus. J'ai vu apparaître de nouvelles espèces qui n'avaient rien à foutre là. Ça crée des problèmes. On parlait de nourriture, mais on voit l'immigration d'insectes ou de maladies qui n'existaient pas ici. Je cultive un peu, puis il faut que tu t'essaies de deviner quand commence le printemps, puis c'est quoi tes signes qui te permettent de faire telle plantation. Ils sont plus là, les signes. Donc, la vision qu'on a, c'est une vision beaucoup plus holistique. Fait qu'on peut pas faire la moitié d'un projet.
Que faire devant ces changements, ces pertes, ces grands projets de développement qui ne nous ressemblent pas? Comment concrétiser notre vision du quartier? On pourrait se dire que c'est le rôle des administrations publiques, comme la municipalité. Après tout, ce sont des élus, des instances, des procédures de consultation, des experts en urbanisme, en environnement, en économie, en développement social. Mais la voix des citoyens et citoyennes est-elle vraiment écoutée? La voix de ces personnes qui vivent dans le quartier et qui sont les premiers témoins de ces changements.
Si on laisse pas la place aux gens qui vivent les réalités, que ce soit des réalités de vulnérabilité, de pauvreté, de vivre avec une maladie chronique, de vivre avec un handicap, ou qui ont, ouais, c'est ça. Si on laisse pas la place vraiment à ça, ben c'est là où, ben dans le fond, on pense qu'on fait pour, puis on pense que ça va marcher, mais tu sais, on n'a pas cet engagement là, en fait, l'opinion des personnes vraiment, puis leur rapport, des personnes qui vivent les réalités, mais on passe à côté de certaines choses. Puis des fois, ben, en tout cas, dans la grande affaire de l'innovation sociale, on veut pouvoir innover, mais si on ne prend pas le temps, parce que ça, c'est des démarches qui prennent du temps, puis on vit dans un monde qui va de plus en plus vite. Puis moi, je pense qu'il y a des gens qui restent derrière parce qu'ils ne vont pas assez vite, ils ne vont pas aussi vite que le monde actuel. Ils ne sont pas accompagnés, justement.
Ce qui marque cette volonté de s'engager à changer les choses, c'est aussi la prise de parole, avec l'objectif de donner voix au fait de vivre dans un quartier, au fait de vivre avec une maladie, ou au fait de vivre une injustice. Comme le disait Claude, une des personnes que l'on a rencontrées, la parole est importante. Lorsqu'on la prend, ça nous aide à nous prendre au sérieux. À Sherbrooke, Nancy nous rappelle que même si la prise de parole est une forme de pouvoir d'agir, de mise en action, cela peut amener aussi son lot de frustration lorsque cette voix n'est pas écoutée. C'est d'ailleurs une des facettes les plus sombres de l'implication citoyenne. L'engagement peut devenir épuisant et frustrant. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous ne sommes pas écoutés?
Ben, moi, je dirais, dans le fond, un peu sur... on parle des enjeux. Ce que ça nous fait vivre, ben, moi, c'est beaucoup de... Ça a été beaucoup de colère. Colère devant, justement, l'inaction. Hein? On regarde le train passer. Ah! Colère devant les oreilles sourdes, des fois, au niveau des décideurs. Colère, encore plus, quand on se fait dire que, ah, ben oui, on les regarde, les données probantes, puis on regarde les rapports des experts. Ben, le GIEC est rendu à quel numéro de rapport, là? Puis, tu sais, dire qu'est-ce qu'on fait encore? Ça, tu sais, c'est ça, je parlais des manifestations et tout. Je poursuis là-dedans, mais à un moment donné, on parlait d'épuisement. Ben c'est ça, tu sais, la colère, elle impulse un mouvement, mais à un moment donné, c'est le mouvement et à un moment donné, c'est comme, bon, il y a moi aussi, tu sais.
Lorsqu'on a le courage de prendre la parole, se trouve aussi la difficulté d'être entendu et reconnu. Frustration, sentiment d'impuissance, culpabilité, angoisse face à comment les choses se déroulent devant nous. Ces émotions sont partagées par celles et ceux qui vivent de l'éco-anxiété. Peut-être, comme Anne-Marie, c'est un sentiment que vous avez vécu. Pour elle, c'est son implication dans Mères au front, un collectif de mères qui passe à l'action face à l'urgence climatique qui lui a permis de dépasser ce sentiment.
La question que tu posais, est-ce que c'est personnel, collectif? Je pense que les deux se rejoignent parce que notre groupe de Mères au front, on s'est connus, c'était toutes des personnes sauf une que je connaissais pas, par le même objectif là de protéger les bons. Mais il y a des liens qui se créent entre nous, il y a des relations qui se créent entre nous, donc ça devient aussi un support mutuel, le fait qu'on se sente pas tout seul, qu'on travaille ensemble. Donc c'est des actions collectives, mais il y a une dimension plus interpersonnelle aussi.
Plus qu'une prise de parole, l'engagement citoyen permet alors de passer à l'action. Or, cette action, nous raconte Anne-Marie, fait surtout sens lorsqu'elle est collective. On ne s'engage pas seul à renverser le cours des choses. L'engagement citoyen au sein de projets collectifs offre une résonance à notre voix, crée des liens, un réseau de support et permet de collectiviser les enjeux que nous vivons. Et parfois, d'accomplir ce qu'on pensait impossible, que ce soit la mise sur pied d'une initiative ou l'arrêt d'un projet industriel, comme on a pu le constater à la table littorale Est de Québec.
Si j'ai accepté de m'engager, c'est que j'ai vu dans la table une espèce de masse critique de gens engagés. Qui est importante pour moi, parce que pour avoir mené des luttes très locales, mais souvent à bout de bras, je sais que c'est épuisant, puis si on n'est pas nombreux pour défendre les causes, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des gains et faire des progrès. Donc moi, ce que je trouve très stimulant de la table, c'est qu'il y a beaucoup de gens engagés, intéressants, Non seulement c'est bon pour les luttes et les enjeux qu'on veut défendre, mais ça m'enrichit beaucoup personnellement de rencontrer tout ce monde-là, de discuter, puis de voir qu'il y a énormément d'expertise, d'expérience de vie intéressante, valable et enrichissante. Donc, pour ça que je suis là.
Essayons de comprendre l'engagement citoyen qui se trouve derrière les différentes initiatives que nous avons rencontrées. Oui, cela part d'un sentiment individuel, des tripes, comme nous disait Sophie, et aussi d'une expérience quelconque du territoire ou de la vie. Mais ce niveau individuel est rapidement mis en relation avec un niveau collectif ou interpersonnel qui vient à son tour nourrir notre motivation à s'engager. C'est un peu ce que nous racontait Martial. Pour lui, ses camarades, c'est ce qui l'enrichit, c'est ce qui le motive. L'engagement citoyen, c'est aussi pour mettre en œuvre notre vision du monde. Empêcher ou transformer ce que l'on ne veut pas, ce à quoi on s'oppose, ce qui nous indigne, tout en tentant de réaliser à quoi on aspire, de créer nos possibles. Mais plusieurs questions se posent. Que faire? Comment s'y prendre? Que prioriser? L'engagement nous confronte donc à des questionnements complexes. Nous sommes face à une diversité de choix dont certains sont plus faciles que d'autres à faire. Nager à contre-courant peut aussi mener à l'épuisement. Associer le geste à la pensée devient parfois une mission difficile à accomplir. Que faire? Pour certains et certaines, il s'agit de remettre les situations que l'on vit en perspective, d'accepter nos contradictions, de valoriser les actions quotidiennes qui s'ancrent dans le moment présent. Et ce, paradoxalement, dans un contexte d'urgence où les grandes transformations sociales prennent du temps.
L'engagement, c'est toujours un équilibre, je pense, pour le maintenir, en tout cas, puis être bien là-dedans. Le jour où on n'est plus bien pour X raisons, soit parce que on se met trop de pression parce qu'on a trop pris. Concrètement, c'est je fais partie d'un groupe XY. Je me dis OK, là j'ai 3 heures à donner, là il faudrait faire ça en tant que groupe. Là je vais prendre une autre heure. Il y a quelque chose d'intéressant là. Là ça fait une autre heure de rajouter. Fait qu'à un moment donné, on est comme OK, mais à quelle heure que on va prendre le temps de digérer? T'sais, moi, je crois beaucoup à la digestion, là, pas juste de l'information, mais de nos activités, où on se situe en tant qu'individu. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut se respecter puis il faut connaître ses limites. Mais en tant que bénévole, après tout, on est bénévole. T'sais, fait qu'à un moment donné, il faut avoir du plaisir. Le jour où, le moment, en tout cas, qu'on n'a plus de plaisir, ben c'est là qu'il faudrait comme juste mettre un hold, se dire, OK, ben moi, je vais prendre une pause, les amis, puis t'sais, on est devant une rivière, ben l'eau, elle va couler pareil, puis t'sais, je reprendrai peut-être dans un mois quand je vais m'être ressourcé. Puis cet équilibre-là, elle est hyper dure parce que tu sais, c'est une urgence. On trouve que ça va pas assez vite à d'autres niveaux, là, politique, dans la transition.
On peut pas prétendre là, tu sais, qu'on va avoir la bonne solution, les bonnes façons de faire, mais en même temps, ne rien faire, c'est complètement, en tout cas pour moi, là, contre nature. Tu sais, je vais pas juste attendre. Je vais choisir, je vais agir. Après, je vais prendre en compte que je peux changer d'idée. Puis moi, j'aime bien, là, mes perspectives changent aujourd'hui, ils changent constamment. Puis avec les échanges qu'on a eu aujourd'hui, ils sont nourris. Puis ils vont continuer d'évoluer. Mm-hmm. Fait qu'après, on y va chaque jour avec qui on est. Le plus juste, tu l'as nommé, hein? Essayer d'être le plus juste.
Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser. Mais pour moi, c'est l'idée que s'engager, c'est aussi apprendre à se connaître, à se respecter. Les causes dans lesquelles on s'engage nous dépassent tout le temps. Même si on accomplit plusieurs choses, il y en aura toujours une autre à faire. Parfois, ce sont des circonstances hors de notre contrôle, comme une pandémie, ou encore un rapport de pouvoir complètement débalancé qui va faire en sorte que notre projet ou notre lutte ne va pas aboutir. Le défi est la lutte constante avec nous-mêmes. Comme nous le racontent Francis et Mélissa, il faut prendre du recul, il faut savoir où et quand s'arrêter, tout en restant le plus cohérent possible avec nous-mêmes. Oui, il y a les grandes victoires, qui nous donne ce sentiment de devoir accompli. Mais ces victoires se font rares. Et c'est donc peut-être dans les actions quotidiennes que se trouve l'énergie pour poursuivre l'engagement. De quoi êtes-vous le plus fier? Quels gestes vous ont procuré de la fierté? Ce sont 2 questions que nous avons posées à Sherbrooke. Les réponses de Catherine, la directrice de la corderie du café, dont je vous ai parlé plus tôt, et de Nancy, nous montrent que la fierté ne se trouve pas toujours dans les grands coups d'éclat.
Je suis fière quand, grâce à la corderie ou bien des projets au Baobab, il y a des citoyens qui considèrent qu'ils ont un pouvoir d'agir, puis qui font une différence. Puis que tu sais, dans le fond, que ça soit d'aider leurs voisins ou bien de, comme en fin de semaine, c'était extraordinaire, là, il y avait un spectacle là, de citoyens qui ont créé des chansons. puis qui s'exprimaient, puis qui prennent la place sur la scène. Puis il y avait de ces personnes-là que je savais qui ont vécu des enjeux de santé mentale, puis dont une participante que je sais qu'elle sortait pas de chez elle de toute la pandémie, puis qu'elle avait peur de répondre au téléphone. Puis que là, ben, était sur la scène avec un groupe de 7 personnes, puis qui chantait, ben là. Je me disais, OK, ça, c'est pour ça que je travaille, pour que les gens se sentent connectés, puis sentent qu'ils ont le pouvoir de faire des choses.
Je vois ça un peu comme, peut-être un peu comme quelque chose qui serait réalisé personnellement, alors que quand je suis dans ces organisations-là, c'est plus collectif. Ouais, ben, une fierté collective, peut-être, mais tu sais, c'est ça, c'est. Mais c'est ça, de l'attribuer seulement, ben pas seulement à moi, mais tu sais, la fierté seulement à moi, je sais pas. Alors, je me suis mis le mot plutôt qui me collait mieux, c'était heureuse. Tu sais, être heureuse d'avoir fait partie de ce mouvement-là, d'avoir fait ce petit pas-là avec les autres. Et heureuse aussi, ce qui est de tout le côté humain qu'on va chercher là-dedans, les alliances, les nouvelles personnes qu'on connaît. Et puis, mais le terme fier, c'était comme, ça m'amenait l'idée de fier, peut-être, de faire partie de cette chose, cette organisation-là, ce mouvement. Et donc, ça prend une certaine forme, une certaine dimension identitaire, je trouvais.
Souvent, quand on parle d'innovation sociale, on présente des organisations, des processus, des grands exemples de projets ou de réussites. Parfois, il s'agit d'une entrepreneur social. On va présenter son parcours, d'où vient sa fibre entrepreneuriale, l'élément déclencheur qui l'a poussé à créer un produit. Plus rarement, on réfléchit en termes de parcours militant. Pourtant, cela constitue un des ressorts de l'innovation sociale citoyenne. C'est dans leur parcours de vie que les personnes puisent leur énergie, leur motivation. C'est à partir de leur expérience que les citoyens et citoyennes construisent leur utopie, leur vision. Cette vision repose sur des forces motrices telles que l'espoir, l'optimisme d'un avenir meilleur, et le refus d'un statu quo. C'est en se rassemblant collectivement que les voix individuelles trouvent écho et résonnent à l'extérieur du collectif. C'est ce même collectif qui redonne une énergie aux personnes qui s'y impliquent. Bref, ce sont ces paramètres qui permettent la naissance de projets transformateurs. Sauf que c'est toujours un équilibre fragile de conserver cette énergie, cette motivation, tout en ne s'épuisant pas. S'intéresser aux innovations sociales citoyennes, c'est avant tout s'intéresser aux personnes qui les portent. C'est aussi s'intéresser aux relations entre ces personnes et plus largement leur expérience de vie, d'un lieu, d'un espace, d'un territoire particulier. De s'intéresser au possible qu'ils et elles portent individuellement et collectivement. L'équipe de Perspectives et Dialogues est composée de Marie Bégas, Catherine Boilly, François Gélina, Jade Saint-Georges et moi-même, Marc Deslachapelle. Merci au précieux soutien de Mélanie Claude, coordonnatrice scientifique et communication aux crises. Un énorme merci aux initiatives qui nous ont accueillis, la Table citoyenne Littoral S, le Café Baobab, le Grand Dialogue régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean et à l'Institut du Nouveau Monde. Un merci tout particulier aux participants-participantes des ateliers qui ont généreusement donné leur temps et échangé avec nous. Et merci à vous, citoyens-citoyennes, qui vous engagez à rendre notre monde meilleur. Le projet de balado Perspectives et Dialogues a été rendu possible grâce au soutien financier du programme Dialogue des Fonds de recherche du Québec et du CRIS-UQAM. Une réalisation de contenubalado.com.